If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
I'm representing for the gangsters all across the world still.
Bonjour, bonsoir, c'est Manu, je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Dans chaque épisode de Radio Cassette, on rembobine une cassette et on vous raconte l'histoire inédite des disques qui ont marqué les années 90. Dans cet épisode, on va vous parler de Mike D, MC et Ad-Rock, les trois petits blancs becs des Beastie Boys. En 94, alors que l'âge d'or du hip-hop touche à sa fin, les Beastie Boys finissent enfin par être pris au sérieux. Il faut dire que l'image white trash de Fight For Your Right leur a collé longtemps à la peau. Les Beastie Boys jouent maintenant de vrais instruments, ils élargissent leurs influences, le groove est insoutenable et les samples travaillés, leur flow redoutable, bref, le son des Beastie Boys est inimitable. Grâce à des titres comme Sure Shot, Get It Together et bien évidemment Sabotage, Ill Communication va se hisser en tête des charts et devenir un des disques les plus importants et influents de l'histoire du hip-hop. Ill Communication, on en parle tout de suite maintenant avec le Cassette Crew.
Yo yo yo!
Fanny, Grégoire,
salut tout le monde,
et Olivia.
Salut.
Alors Olivia, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Je vais vous parler de canular téléphonique et de zizi gonflable de 12 mètres.
Ouh.
On a hâte.
Yes. Greg,
Moi je vais vous emmener dans le studio le plus cool de la Terre avec rampe de skateboard et panier de basket.
Ok, et on retrouvera Fanny en fin d'émission.
Eh ben, bon programme les amis, on va parler de street photographie et de faux flics à perruque.
Ok, c'est parti. Montez le son, on va commencer par se réécouter l'album en mode Fast and Furious. C'est parti.
Got the ill communication, my bell. 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 Keep it on and on and on and on. We'll be right back.
and go.
Waouh, c'était long, mais c'était bon. Alors voilà pour les 20 titres de Ill Communication. C'est déjà beaucoup, 20 titres, et j'ai noté qu'il y en avait même 24 sur la version japonaise. Alors, c'est le quatrième album des Beastie Boys. Il sort le 23 mai 1994 en compact disque, cassette, vinyle, et sur leur propre label, le label Grand Royal, chez Capitol Records. Alors, 1994, c'est une année incroyable pour le hip-hop, on parle même de l'âge d'or du hip-hop cette année-là, parce qu'on retrouve plusieurs disques majeurs qui vont marquer l'histoire. On retrouve au rayon au rap US de la Fnac le Illuminatic de Nas, le Ready to Die de Notorious B.I.G. et le Southern Playalistic Cadillac Music d'Outkast. Voilà. En France, c'est aussi l'année de Prose Combat de MC Solar et de 95 200 du Ministère Amer. Voilà, c'était pour citer quelques-uns de ces albums, mais il y en a eu pas mal en fait.
Ouais, année incroyable pour le hip-hop, mais un peu moins pour le grunge.
Et mais pourquoi ?
Je ne sais pas.
On saura jamais. Alors, on va commencer par faire un petit tour de table. Ça vous rappelle quoi, les Beastie Boys ? On va commencer par toi, Olivia.
Alors, moi, ça me rappelle les soirées quand j'étais au collège, donc un peu plus tard que 94, mais il y avait un groupe de mecs qui dansaient pas trop, qui fumaient des clopes, enfin, tu vois, un peu les rebelles. Et systématiquement, il fallait qu'on mette Sabotage pour qu'ils secouent frénétiquement leurs cheveux.
Je faisais partie de ces mecs-là.
Ça, ouais. Voilà. Et à chaque fois, les filles, on était un peu dégoûtées parce que c'était le moment où il se passait pas grand-chose parce que t'avais juste ces mecs qui secouaient leurs cheveux sales devant nos yeux.
Et alors que vous vouliez juste du sexe, quoi. Vous attendiez du sexe. Bah,
toujours. Que veulent les femmes. Voilà, c'est mon souvenir lié aux Beastie Boys.
Trop drôle. Ok, très bien, Grégoire.
Alors moi, mon souvenir, c'est l'écoute de Sabotage et ce moment jouissif, quoi, où t'as un groove, t'as un truc imparable. C'est un morceau que t'as envie d'écouter, de réécouter. Enfin, tu vois, ça fait partie de ces premières claques auditives qui te marquent dans ta chair, quoi. Donc j'ai ce souvenir d'écouter Sabotage et de me dire, mais c'est incroyable ce truc, c'est incroyable ce que la musique peut provoquer. J'ai vraiment ce souvenir qui est encore très 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 ancré. Après, l'album, je l'ai pas beaucoup écouté à l'époque parce qu'on écoutait les singles et que s'engager sur un album quand on est ado, c'est pas évident parce que ça réclame un peu de patience, d'écoute
et d'argent.
Du coup, parce qu'il n'y avait pas l'internet à notre époque.
On ne pouvait pas voler la musique, c'est ça que tu veux dire ?
Bah oui. mais je ne l'ai pas volé puisque des années plus tard, je l'ai racheté en vinyle et j'adore tout simplement. Voilà.
Super.
Merci, alors, c'était un super épisode.
Et toi, Fanny, alors ?
Eh ben moi, mes souvenirs des Beasties, c'est nada, niente, que dalle, que chi, j'en ai aucun. Je suis étrangement, mystérieusement passé 100% à côté, c'est le blackout.
T'as découvert les Beastie Boys, on s'est dit, et de quoi on va parler le mois prochain ?
Oui.
Bah, des Beastie Boys.
Mais à peu près, hein. C'est juste un nom que je connais, que je n'ai jamais écouté, mais je pense qu'ils ont eu du succès un peu trop longtemps avant que je me mette à écouter du rap, et du coup sur Skyrock il le passait plus.
Et puis est-ce vraiment du rap? Pavé dans la mare.
En tout cas, navré, mais voilà, c'est la première fois que je sèche. Je donne ma langue au chat et je te passe la parole du coup.
Moi, j'ai très peu de souvenirs aussi parce que malgré tout, c'est un disque, puis même un groupe que j'ai découvert très tard. Moi, j'ai un vague souvenir avec toi, Grégoire, en soirée. Je pense qu'on était genre en cinquième.
Il secouait ses cheveux, je crois.
oui, mais je me souviens que pour lancer la soirée, et tu voulais mettre Fight for the Right to Party. Hein, le fameux hit single de nos copains.
Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas.
Mais voilà, je pense que je l'ai à peu près découvert à ce moment-là. Il y avait cette énergie.
Bah, c'est pas tard en cinquième, mais... gros.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ça a à peu près arrêté là.
Ouais,
tu vois.
Non, mais j'aurais préféré le découvrir à 8 ans.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas allé plus loin que cette écoute éphémère.
Après, je pense qu'on est un poil jeune. C'est la génération un tout petit peu avant nous, quand même, les Beastie Boys.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Certes. Voilà. Certes. Alors, on va commencer. Non, ça s'est déjà fait.
Il est perdu dans le conducteur, le coco.
Tu peux pas dire un groupe, géométrie variable encore. Hein.
Non, mais j'ai pas d'intro. Alors maintenant, on va se tourner vers toi, ma chère Olivia, pour parler de l'histoire du succès des Beastie Boys. Alors comment ces trois blancs becs sur lesquels on pouvait ne rien miser, tout d'un coup, sont devenus les géants du hip-hop qu'on connaît aujourd'hui?
Alors, on est en 79 et ils ne sont pas trois, mais quatre ados, un peu punk, un peu chelou, issus de la classe moyenne de Manhattan. Et ils décident donc de créer un groupe de punk hardcore baptisé The Beastie Boys. Dedans, il y a donc Adam Yauch, surnommé MCA à la basse, Michael Diamond, Mike D, au chant, John Berry à la guitare et Kay Chellenbach à la batterie.
Qui ?
Kate Schellenbach.
Inconnu. Ouais, inconnu au bataillon.
Et oui, parce que en fait, ils vont la dégager. Mais ça, je vous en parle dans deux minutes.
Ils ont tous des noms de délicatessen juifs de New York.
Ce n'est pas un hasard. C'est John Berry, le guitariste, qui trouve le nom de Beastie Boys. B-E-A-S-T-I-E. C'est l'acronyme de Boys Entering Anarchistic States Toward Internal Excellence.
Ça, c'est de l'acronyme.
Tout à fait. Alors, en plus, ça ne veut pas dire grand-chose. Garçons entrant dans les états anarchistes vers l'excellence interne. Et puis, en plus, c'est faux, parce que comme on vient de le dire, il y a une fille dans le groupe. Le groupe gagne rapidement le soutien de la scène underground new-yorkaise, Bad Brains, Dead Kennedys, Misfits, Reagan Youth. En novembre 82, les Beastie Boys enregistrent un EP intitulé Pollywogs 2, produit par le label Rat Cage. On écoute un extrait de Egg Raid on Mojo tiré de cet EP. Sans la sueur.
Je crois, crois qu'on vient de déboucher les oreilles de nos auditeurs.
C'est un peu les enfants entre, tu vois, Minor Threat, il y a un peu ce côté-là, les Buzzcocks, il y a un peu ce...
Ouais, carrément, Grégoire.
Ah, ouais, tout ça pour placer des noms et faire genre, tu dis qu'on a...
Okay, désolé, j'essayais d'apporter un petit peu de profondeur à cette émission, mais
c'est vrai.
Je préférais la superficialité, voilà.
On adore la superficialité. Bref, je reprends. John Berry à la guitare quitte le groupe en 83 et est remplacé par Adam Horowitz, guitariste de The Young and the Useless. Le groupe enregistre son premier morceau hip-hop intitulé Cookie Puss, toujours sous le label Rat Cage. Le titre est inspiré d'un canular téléphonique qu'ils avaient l'habitude de faire. En fait, Cookie Puss, c'est le nom d'un gâteau en forme de personnage qui faisait la pub du restaurant Carvel Ice Cream à la télé. La bonne blague, enfin non pas trop, va devenir un joli petit succès dans les boîtes underground de New York. On entend le canular au tout début du morceau.
Yo, I I said, I'm calling you, babe. Yo, B, answer the phone. Yo, B.
May I help you?
Yes, what's your name?
Hello?
Hello, man, you got Cookie Puss's number?
He's my supervisor. He'll help you.
Yo, man, where's the supervisor at? I got the number anyway, baby. Damn bitch, hang up on me.
These pussy crumbs are making me itch. A cookie butt? Hey! A cookie butt? Maybe I should scratch.
My guys, help! Yes, here I go!
Am I really?
Ils ont vraiment des voix d'ado en train de muer.
mais tellement, moi, ce que je trouve marrant.
Mais je crois que là, ils sont super jeunes. Hein. Ils ont 17, 18 ans,
jeunes,
ou peut-être la vingtaine. Enfin,
non, même pas.
Lycéen.
Ouais. Absolument.
Mais ce morceau, c'est pas n'importe quoi. En fait, il va leur apporter plein de thunes. En fait, ce qui va se passer, c'est que des années plus tard, il y a British Airways, les avions,
aérienne,
la compagnie aérienne, merci, qui vont en fait utiliser ce morceau, Cookie Puss, sans leur autorisation. Et en fait, du coup, ils vont les attaquer et là, ils vont choper 40 000 dollars avec lequel ils vont acheter leur premier appart.
Mais 40 000 dollars, c'est rien du tout.
Bah non, mais c'est quand même pas mal parce qu'il fallait les faire, les 40 000 dollars avec ce morceau, quoi.
C'est sûr.
Avec un canular téléphonique. Donc, gros succès de Cookie Puss, le groupe commence à tourner de plus en plus dans les clubs et décide d'engager Rick Rubin, DJ Double R, pour mixer pendant leurs concerts. Rubin, c'est celui qui va les faire glisser progressivement du punk rock vers le hip-hop. Et la mayonnaise prend. Quelques mois plus tard, Rubin crée avec son ami Russell Simmons le label Def Jam Recordings.
Wait a minute. Pay attention, hang up the phone, and watch this. Jam means record. Def is short for definitive. Definitely the best record you could buy today.
Donc ça, c'était le petit clip promotionnel pour Def Jam. Russell Simmons, alors c'est pas n'importe qui, c'est d'abord le frère de Rev Run du groupe Run DMC et surtout il connaît beaucoup de monde dans le milieu, il va très vite flairer le potentiel de ces petits blancs un peu cons qui font du hip-hop. Quelques mois plus tard, il se sépare de Kate, donc la batteuse dont on a parlé, parce qu'elle ne correspond plus à l'image un peu badass du groupe. Ça, c'est quand même un peu
super sympa.
Ouais, franchement.
Boys will be boys.
Les Beastie Boys commencent à attirer l'attention du grand public grâce au petit succès de plusieurs maxi 45 tours et ils vont faire, tenez-vous bien, la première partie de la tournée de Madonna en 85.
C'est un truc de
quelle idée.
Ouais, c'est un peu ouf, ça.
Alors, c'est pas sûr que ça fasse plaisir aux fans de hip-hop, ça.
Ça a pas trop plu et c'est un peu aussi, on leur a reproché leur manque de crédibilité, en fait. Hein. Il faut donc attendre la tournée avec Run DMC pour qu'ils se fassent vraiment accepter par le milieu. Leur musique commence à être jouée dans les clubs, ils se lancent alors dans l'enregistrement d'un EP, Rock Hard, qui reprend Back in Black d'AC/DC. C'est le morceau qui va les lancer et surtout poser les premières bases de leur style à la frontière du punk et du rap.
C'est d'un goût douteux.
Ah non, arrête. Non, c'est génial.
J'aime bien.
Ouais, je sais pas, je suis un peu partagé quand
les
même.
Les gars, ils font un truc en fait qui va se passer un an avant Aerosmith avec.
Walk This Way.
Avec Run DMC d'ailleurs. Mm. Walk This Way qui va devenir un tube mondial. Les gars, ils sont en avance quoi. Ils ont niqué le game en fait.
Ouais, je suis en train de me dire sur quelle planète j'ai vécu jusqu'ici pour rater ça alors que c'est tout ce que j'aime.
Ta vie va changer.
C'est énorme. Ouais.
Donc, on est en 86. Ils sortent leur tout premier album studio, License to Ill, sur les labels Def Jam et Columbia Records. C'est un énorme carton. Stephen Thomas Erlewine, du site web AllMusic, explique que License to Ill était peut-être inévitable. Un groupe de blancs qui mélange rock et rap, à qui on attribue la première place des albums dans l'histoire du hip-hop. Faut dire qu'à la fin des années 80, le fait qu'ils soient blancs va leur permettre d'atteindre les radios et les télés, ce que les noirs ne parviennent pas à faire parce qu'on leur laisse pas la place, en fait, tout simplement. C'est d'ailleurs le même phénomène que décrit Eminem quelques années plus tard dans son titre « White America »,« Let's do the math, if I was black, I would have sold half ». J'en vendrais beaucoup moins j'étais noir, ouais. C'est ça.
Malheureusement.
License to Ill devient l'album de rap le mieux vendu des années 80 et accède à la première place du classement du Billboard dans lequel il reste 5 semaines. Le clip du single You Gotta Fight for Your Right to Party passe en boucle sur MTV. Du jamais vu pour un album de rap, il s'en vendra plus de 10 millions d'exemplaires.
C'est énorme.
Kick it!
Mais grave, alors petite anecdote marrante, c'est que en 86 du coup ils ont samplé AC/DC tout à l'heure, c'est ce qu'on écoutait avec Rock Hard, et en fait AC/DC les a attaqués pour utilisation illégale du sample. Du coup en fait le titre il a pas été réédité pendant plus de 30 ans, il a fallu entendre 30 ans pour pouvoir l'avoir sur Spotify ou en CD à nouveau. Donc quelques années plus tard en fait, quand ils vont piller le hard rock Led Zeppelin en tête, et ben là il y aura plus de problème en fait. Jimmy Page de Led Zepp ira même jusqu'à dire que ce morceau en fait qu'on a écouté, c'est pour lui un hommage en fait, c'est presque un compliment. Donc jamais ils ont demandé Led Zeppelin des droits, des royalties pour cette utilisation d'un sample complètement abusé. Et ce qui est marrant, c'est que dans le rap, suite à ça en fait, pendant plusieurs années en fait,
tout le monde va sampler Led Zeppelin.
Exactement, genre Puff Daddy avec
parce que c'était gratuit,
avec Cashmere.
Avec Cashmere, exactement.
Il a pas payé de droits Puff Daddy pour Cashmere.
Alors, il a fait jouer Jimmy Page. Malin, tu vois, comme ça, il se le met dans la poche en plus.
Énorme.
Oh, ouais. Bon
malin.
Plan.
Malin.
Est-ce que j'ai le droit d'avouer que c'est un peu comme ça que j'ai connu Led Zeppelin quand j'avais 12 ans et la BO de Godzilla?
Je pense qu'il y a beaucoup, de gens qui sont pas dans ce cas-là. C'est pas grave. On vous méprise un petit peu, mais ça va.
Pourquoi?
Donc, en tout cas, c'est la consécration pour les Beastie Boys. Ils partent en tournée dans le monde entier avec pour décor de scène un pack de bière géant, un zizi gonflable de 12 mètres et une stripteaseuse dans une cage.
Ambiance.
Quel génie,
bon
ces
goût,
mecs-là.
Bon goût. Leur concert sera interdit dans les États du Sud des États-Unis, il sera interdit à Londres aussi et il va provoquer des bagarres en plein Paris.
On se demande pourquoi.
Ils buvaient pas que de l'eau, les mecs, je crois. Hein. Pour le deuxième album, les choses se compliquent avec Def Jam. Ça va aller jusqu'au procès. Selon le groupe, le label leur doit encore de l'argent. Selon Def Jam, Russell Simmons est le seul responsable du succès du groupe et surtout de l'avoir rendu crédible aux yeux de la communauté noire. L'affaire va retarder la sortie du deuxième album des Beastie Boys, Paul's Butik, en 89, qui sera signé chez Capitol Records. Pour l'écrire, ils s'enferment tous les trois dans une villa très 70s sur les hauteurs de LA. Ils font beaucoup la fête, mais parviennent tout de même à enregistrer un album qui doit marquer leur grand retour. Évidemment, c'est pas tout à fait ce qui va se passer. Paul's Butik est déclaré comme catastrophe par la presse et largement boudé par le public. Malgré tout, il ne se décourage pas, il décide de repartir complètement à zéro et de se remettre au travail comme jamais. Ils créent leur propre studio d'enregistrement et leur label Grand Royal. Ils enregistrent un troisième album, Check Your Head, qui sort en 92. L'album navigue entre hip-hop old school, funk et jazz, tout en renouant avec le racing punk hardcore. Check Your Head sera certifié double disque de platine aux États-Unis.
Et c'est un super album.
À peine quelques mois plus tard, ils repartent déjà en studio et en mai 94, ils sortent leur quatrième album, Ill Communication, qu'ils considèrent un peu comme une suite de l'album précédent, Check Your Head. Ill Communication démarre directement à la première place du Billboard 200 et les singles Sabotage et Sure Shot aident à le certifier double disque de platine. Il faut dire que le clip de Sabotage, réalisé par Spike Jonze, passe en boucle sur MTV. Ça, on va en parler plus tard avec Fanny.
Il y a de quoi. Qui te mord les lèvres, là. Elle a envie de balancer des trucs.
Ces deux albums, Check Your Head et Ill Communication, ont profondément changé le groupe, les personnes et les musiciens qu'ils voulaient être. C'est aussi le début de l'engagement politique de Adam Yauch. Quelques années plus tard, il monte le Tibetan Freedom Concert et parvient à réunir les Smashing Pumpkins, Radiohead, Björk ou Rage Against the Machine, afin de récolter des fonds pour le mouvement de libération du Tibet.
Sympa la petite affiche, on a bien aimé y être.
Grave, et d'ailleurs c'est le plus gros concert caritatif depuis le Live Aid qui s'était passé plusieurs années plus tôt.
Absolument. La sortie d'Ill Communication a défié les critiques les plus dures du groupe. C'est ce que l'on pourrait appeler l'album de la maturité, de leur maturité. Il a été l'un des plus marquants de la décennie. Ce sont les Beastie Boys dans leur état naturel, quand ils n'ont plus rien à prouver à personne.
Waouh, bah écoute, c'est un joli mot de la fin. Alors, on pourrait revenir maintenant sur le making-of de ce disque culte. Quatrième album des Beastie Boys, album que l'on peut considérer comme le grand frère de leur précédent disque, Check Your Head.
Oui, c'est vrai qu'il y a une parenté avec Check Your Head, Olivia nous l'a dit. Un album qui contient déjà ce mélange des obsessions des Beastie Boys, ce bric-à-brac de références et de sons hip-hop, punk, hardcore, jazz latino et funk. Mais Ill Communication parvient à sublimer la formule en proposant ce que l'on peut qualifier de collage gargantuesque et déroutant, où dès les 15 premières minutes, on passe d'une grosse claque hip-hop à une cavalcade punk décapante, en passant par un morceau instrumental aux airs de spy funk avec Bobo on the Corner. Il y a de quoi devenir schizo avec Ill Communication. Comment on fait pour enregistrer un disque aussi bordélique? Je vous le demande. Et ben dans une interview, les Beastie Boys expliquaient qu'ils se focalisaient sur un style de musique pendant 2 ou 3 jours d'affilée avant de changer d'atmosphère en fonction de l'humeur. C'est vrai que ça doit être quand même coton d'enregistrer un album pareil.
Alors justement, Greg, l'enregistrement, ça s'est passé où?
Alors, rap East Coast, vous me dites forcément... Enregistrement à New York, c'est vrai. La première partie du travail a lieu au Tin Pan Alley Studios, essentiellement pour boucler des instrumentaux. Mais ensuite, c'est à Los Angeles que l'histoire continue, et plus précisément au Gison Studios. Ce lieu d'enregistrement, ce n'est pas vraiment un studio comme les autres, ce serait plutôt le quartier général des Beastie Boys, un lieu qu'ils ont aménagé dans les années 1991-1992 dans une friche commerciale. L'endroit est hyper spacieux, c'est une ancienne salle de danse. Les Beasties ont pu y installer une rampe de skateboard et un panier de basket pour se détendre. Et puis l'autre gros avantage, c'est que cela leur permet de prendre leur temps et d'éviter de douiller pour un studio professionnel. Pendant les sessions d'enregistrement, leur producteur, Mario Caldato, pouvait ainsi laisser tranquillement les bandes tourner lors des longues jam sessions de nos 3 New-Yorkais préférés. Je vous l'avais dit, c'est le studio le plus cool du monde.
Oui, tu dis éviter de douiller, mais c'est justement parce que suite à l'insuccès
de Paul's Boutique,
fait, ils sont sur les rotules. Ils ont zéro thune.
Zéro thune.
Ouais. Plus personne ne croit en eux, et donc ils sont obligés de faire système D et en serrant la ceinture. Quoi.
Ouais, tout à fait.
Alors Greg, l'enregistrement de l'album, il va s'étaler sur 6 mois, ce qui est assez rapide, mais on peut dire que la gestation de l'album, elle a commencé en fait bien avant.
Oui, dès la tournée de l'album Check Your Head, les Beastie Boys vont piller tous les disquaires qu'ils croisent sur leur chemin. C'est presque une compétition entre les membres du groupe, et de leur trouvaille, les 3 mélomanes vont extraire la matière première d'Ill Communication, à commencer par l'un des samples les plus célèbres de l'histoire du hip-hop. C'est évidemment Jeremy Stig avec ce All In for Judy en 1969 qui a servi pour le titre Sure Shot. Bah Ouais, ce sample est ouf. Hein. C'est peut-être l'un des plus célèbres de l'histoire du hip-hop. Hein.
Petite flûte à la Naturalia.
J'irai pas jusque-là, mais quand même. Ensuite, je vous propose qu'on s'attarde sur le sample de Get It Together. Gros tube aussi sur Ill Communication. Alors, c'est assez rigolo. En fait, c'est un album de 1969, là encore, décidément, qui s'appelle The Moog Machine. Et en fait, c'est que des reprises de titres pop très connus, mais au Moog. Et là, en fait, c'est un morceau qui est un pot-pourri entre Aquarius et Let the Sunshine In de la comédie musicale Air. Alors là, le passage qu'ils utilisent, vous n'allez pas reconnaître parce que c'est un passage un peu de transition, un pont, si vous voulez, un bridge. Mais en fait, c'est un pot-pourri entre ces deux tubes de la comédie musicale Air repris au Moog. C'était très à la mode à l'époque.
One, two, one, two, keep it on. Listen to the shit because we keep it till dawn. Listen to the ass track, got it going on. Listen to the ladies, come on and let me spawn. All your eggs, then you go up the river.
Ah, ce morceau, c'est une tuerie, hein.
Ouais. Hein? Hein? Putain, pourquoi j'ai pas rappé comme eux, quoi?
Franchement, c'est.
Presque.
Qui est presque, hein. Il manque pas grand chose, Manu.
Pas grand chose, vraiment. Je continue, persévère, crois tes rêves.
Ensuite, je vous propose qu'on s'attarde un petit peu sur le sample utilisé sur le titre Do It. Et là, il s'agit d'un sample d'un artiste qu'on connaît tous, puisqu'il s'agit de Bob Dylan sur un titre qui s'appelle Queen the Eskimo sur l'album Biograph. Alors des samples, il y en a des dizaines et des dizaines. Ils reprennent par exemple des extraits de publicité. Il y a du Run DMC, ils reprennent des batteries par-ci par-là. Il y a des tas de trucs de soul. Enfin, c'est infini quoi. Si vous voulez commencer, voilà, vous pouvez choper des vidéos sur internet qui font ça très bien, qui vont vous montrer tous les samples. C'est assez impressionnant la quantité de musique qu'il y a dans cet album.
Alors Greg, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu davantage sur ce titre Sabotage quand même, qui n'est pas un titre ordinaire.
Ouais, en fait, Sabotage, c'est un morceau qui est né de leur longue session d'improvisation. Ils adorent faire ça, prendre leurs instruments, c'est des musiciens. Et en fait, bah, ça commence avec ce son de basse qui on pourrait croire que c'est un son de guitare en fait, parce que c'est joué avec le médiator, le son n'est pas très très grave. Et ça commence par ce son de basse, là il y a la batterie qui part, ta-ta. Tata. Et si vous voulez, ça va être le début du morceau. Ils vont entendre ça, ils vont se dire, là, ça y est, on a quelque chose. Je vous propose qu'on écoute le multipiste tout de suite de Sabotage. Donc là, vous avez le fameux son de basse. Une guitare saturée, bien énervée pour soutenir le rythme. La batterie, je vous en ai parlé. Et là, les chœurs sont doublés.
Sabotage !
Voilà, vraiment le morceau iconique pour moi. En fait, ce morceau, il arrive à regrouper toutes les influences de Beastie Boys en un. Parfois, c'est vrai qu'ils ont un petit côté punk hardcore, un morceau plus marqué par le hip-hop. Là, dans Sabotage, tu sens qu'ils arrivent vraiment à mixer toutes leurs influences. Et c'est ça qui fait que ce morceau, selon moi, il est aussi iconique.
Alors, Ill Communication, c'est loin d'être un album composé uniquement de samples. C'est aussi un album avec de vrais instruments, Greg.
Oui, de vrais instruments et de vrais musiciens, on l'a dit. Hein, les Beastie Boys eux-mêmes, Adam Yoke à la basse, Ad Rock à la guitare, Mike D à la batterie. Sur Ill Communication, ils s'entourent également du claviériste Mark Ramos Nishita, alias Money Mark, ami de longue date du producteur des Beastie depuis l'album Paul's Boutique, Mario Caldato. Sans oublier Eric Correa, dit Eric Bobo. Lui, c'est un génie des percussions depuis qu'il a 5 ans. Il est le fils d'une légende du jazz afro-cubain et il joue un rôle considérable sur Ill Communication. D'ailleurs, le titre Bobo on the Corner lui rend hommage. C'est aussi une référence à l'album On the Corner de Miles Davis, sorti en 1972. Ce disque de jazz rock a beaucoup influencé les Beastie Boys. Voilà, on retrouve ce côté musique improvisée et jam session qui plaît tant à nos trois New-Yorkais. Et l'influence de Miles Davis sur cet album, en tout cas, elle est certaine quand on s'attarde sur les morceaux instrumentaux jazz latino de l'album, comme cet excellent Sabrosa.
Intersidéral.
Ouais, j'adore ce morceau.
Les deux derniers que tu as passés là, c'est fou.
Alors Greg, ils utilisent quoi les Beastie Boys comme technique d'enregistrement ?
Qu'est-ce que j'en sais moi Manu, j'étais pas là-bas et j'avais à peine 8 ans à l'époque. Bon, t'inquiète, pour le savoir, posons directement la question aux Beastie Boys que l'on retrouve dans une interview où vous allez pouvoir goûter à l'humour pince sans rire des Beastie. On est en 1994, au cœur du réacteur, dans les Gibson Studios. Nos techniques d'enregistrement, beaucoup de gens estiment que notre son n'est pas vraiment travaillé et structuré. Ils pensent que l'on fait ça rapidement et sans trop réfléchir. En réalité, ils ne comprennent pas toutes les compétences, la patience et le soin apporté à nos ajustements de fréquence, nos réglages, nos techniques vocales. Regardez, il y a un peu de matériel dernier cri, mais c'est surtout de la seconde main. Ce n'est pas nécessairement bon marché, c'est juste du matos bien pourri. Non, pas forcément pourri, disons sexy.
Laisse-moi te dire un mot, Mike. En fait, aujourd'hui, avec les avancées technologiques, il devient très difficile d'avoir un son pourri sur son disque parce que les équipements sont tellement performants qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour parvenir parvenir à avoir un son aussi mauvais que le nôtre.
Voilà, tous les groupes du monde aimeraient évidemment sonner aussi mal que les Beastie Boys, c'est certain. Et surtout sur ce Ill Communication, plus qu'un album culte de hip-hop des années 90, un album d'esthète indémodable. Voilà, j'ose le dire.
Yes, merci Greg. Alors, plus qu'un album du hip-hop des 90s, c'est en fait un putain de disque de punk. C'est rock, c'est DIY, c'est sale quoi, sauf cette pochette qui est absolument nickel. Alors je me tourne vers toi Fanny, on lui met quelle note à cette pochette des Beastie Boys ?
Eh ben écoute, moi je suis super contente, on met dans les mains un album que je ne connais pas, je découvre sa pochette que je n'ai jamais vue, et la pochette en question, c'est une très belle photo en noir et blanc qui fleure bon l'Amérique des années 60, donc ça part bien, je suis contente, on part sur du 9, voire du 10 sur 10 là. Et puis après, donc, je creuse un peu, je découvre que son auteur, c'est le grand photographe Bruce Davidson, un Américain de l'agence Magnum, formé aux côtés d'Henri Cartier-Bresson. Vous imaginez bien que ma joie va grandissant. Et donc, cette pochette, on voit quoi dessus ? C'est une photographie de rue prise au drive-in du restaurant Tiny Nailers à Los Angeles. On y voit un homme penché à travers la fenêtre de sa voiture avec un gros microphone entre les mains, en train de commander à bouffer. Et on voit d'ailleurs le menu du restaurant dans le tiers gauche de l'image.
On a l'impression que c'est un resto hawaïen.
Ah bon ?
J'ai l'impression.
Eh bien, nous sommes à Los Angeles, je ne sais pas. Donc la photo, elle était prise en 64, alors que Davidson avait été envoyé par le magazine Esquire réaliser un reportage sur LA. Mais ces photos, qui montraient plutôt le Los Angeles dérangeant que le glamour hollywoodien, n'ont pas plu et finalement, elles n'ont jamais été publiées. En 2013, Bruce Davidson explique dans le magazine Juxtapose comment sa photo s'est retrouvée sur l'album des Beastie Boys.
Quelqu'un m'a appelé et a dit « On aimerait utiliser une photo pour la pochette. » J'ai dit que je devais écouter la musique avant de donner mon accord. Je veux dire, je ne suis pas du tout mélomane, je n'écoute pas grand-chose en dehors de Bach, vous savez. Mais bref, on m'a envoyé une petite cassette avec la musique et je n'y ai rien compris. On aurait dit un langage secret. C'était en dehors de mon domaine de compréhension. Donc je les ai rappelés, j'ai dit « La musique est super, vous pouvez utiliser la photo.
» Alors j'avoue qu'entre Bach et les Beasties, il y a un gap. Il faut d'ailleurs bien se donner son feu vert en tout cas. Alors je la refais.
Sponsorisé par Ricard.
Non mais je vois double, c'est pas facile. Hein. Mettez-vous à ma place, franchement.
Putain, faut que j'aille pisser encore.
Oh non, mais attends, on a presque terminé.
Vas-y, c'est bon.
Oh là là.
Désolé.
Resserre-toi, remets de l'eau dans la carafe.
On va acheter un pistolet pour Grégoire, quoi. Putain.
Oh là là, le mec, mais on va lui mettre des couches.
Grégoire, problème de prostate.
Oh là là, on a dit.
Bon, va pisser, toi va chercher de l'eau.
Toi, tu vois plus rien.
Moi, je vais faire pipi aussi. Non, mais si Greg, il fait pipi, moi, je fais pipi.
Fais pipi sur Greg, s'il te plaît.
Oh, j'en peux plus de ces deux. Tu sais quoi, on va faire un podcast à nous toutes seules.
Ouais.
Ok, un peu de sérieux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on revient.
Tot.
Alors Fanny, Olivia, Grégoire, bonsoir. Vous êtes sur Radio Cassette. Alors, on reprend là où on s'en est arrêté.
J'avoue qu'entre Bar et les biscuits...
On est en train de se faire un AVC au micro quoi.
La Suisse là.
Ah là là. Tiens, prends ça la Suisse.
Et c'est la maline.
Tiens, la revanche des bleus, tiens, bouffe.
C'est le petit Paul qui t'a puni.
Paul Pogba.
Paul de boutique.
Il y en a un qui l'a, mais non, mais mec. Non, mais les
meufs. Bon, allez. On a une émission là,
Paul. Hein.
Yo.
Il y a des auditeurs là quand même.
Allez, vas-y, hein, parle.
On va leur donner quoi
en direct, les gars. Là.
One, two, one, two. Check it out. Ok. C'est vrai, Bruce, qu'entre Bach et les Beasties, il y a un gros gap. Il a bien fait d'ailleurs de donner son feu vert en tout cas.
C'est clair. Et donc, en plus de Bruce Davidson, on trouve le nom de Gibran Evans au design de l'album. Gibran Evans, c'est le fils de Jim Evans, aussi connu sous le nom de Taz, un dessinateur de BD Underground qui a collaboré avec quelques grands noms très cool des comics underground comme Robert Crumb ou Rick Griffin et qui a énormément d'affiches de concerts rock complètement psychédéliques à son actif. En toute logique, pour l'album Ill Communication, Gibran, fils, demande à son père de dessiner une typo sur mesure avec laquelle sont écrits donc le titre de la pochette et tous les textes du livret. Livret qui est d'ailleurs illustré de photos en noir et blanc prises pendant l'enregistrement. Des paroles, on a aussi des paroles de chansons et crédits habituels, le tout mis en page sur fond de couleur monochrome. C'est pas révolutionnaire, mais ça fait bien le job. Globalement, c'est un super chouette design d'album, surtout évidemment grâce à la photo de Bruce Davidson.
Alors oui, la pochette elle est cool, mais quelque chose me dit Fanny que le clip dont tu vas nous parler tout de suite est encore plus cool.
J'avoue que les Beastie Boys nous ont pondu là un clip vraiment de haute volée, et donc pour le réalisateur, pas de grande surprise si je vous dis qu'il s'agit une nouvelle fois de l'américain Spike Jonze, vraiment le nom incontournable des 90s en matière de vidéo.
Comme par
hasard. Et c'est totalement mérité, hein. Le mec a un univers drôle et décalé, complètement unique. Pour le clip de Sabotage, force est de constater encore une fois que notre ami Spikey s'est surpassé. L'idée de départ pour le clip, c'est Adam Yauch qui revient dessus en 2008 pour le magazine Q.
Adrock voulait qu'on fasse une séance photo déguisée en flic et en civil en train de planquer, assis dans une bagnole entourée de gobelets de café et de boîtes de donuts. Or, on a parlé de cette idée à Spike et il a dit « Ok, faisons ça !»
Et je pense qu'on a tous grandi le nez collé devant la télé à regarder des vieilles séries policières, Starsky et Hutch, Rick Hunter, Hooker, Hawaii Police d'État et j'en passe. Donc ce clip, c'est un hommage à tout cet univers testostéroné et un peu fake. On y voit nos trois Beasties avec perruques, grosses moustaches et lunettes aviateurs courser des malfrats dans une débauche de plans rythmés qui empêche toute tentative de résumer ce qui se passe. Ça court dans tous les coins, ça fait des roulades, ça saute de toits d'immeubles, ça défonce des portes, c'est vraiment le délire. Vous prenez toutes les scènes clichés du genre policier, vous mettez dans un shaker, vous ajoutez une bonne dose de LOL et vous avez la recette du clip de Sabotage. Vraiment, je vous le recommande.
C'est vrai que c'est complètement culte et le clip a cartonné sur MTV qu'il diffusait en boucle. Il y a eu 6 nominations d'ailleurs aux MTV Awards, mais 0 récompense. Donc, lors de la cérémonie, eh ben c'est le couac.
C'est le couac ou c'est le sabotage vers son Beasties, ouais. Ce qui se passe, c'est donc qu'on a ce clip qui cartonne à la télé et 6 nominations. Le trophée de la vidéo de l'année est remis à Crying d'Aerosmith. Et donc, quand un peu plus tard, on annonce que le prix de la meilleure réalisation est décerné à Everybody Hurts de R.E.M., Adam Yauch fait irruption sur scène pendant que Michael Stipe récupère son trophée. Il porte une tenue bavaroise avec moustache, perruque, grosses lunettes et déclare que c'est un scandale, que c'est Spike Jonze qui aurait dû gagner. On écoute un extrait.
Ladies and gentlemen, check it out. The winner of Best Director in a Video is...
Go ahead. R.E.M.
Thanks God, Everybody Hurts.
Outrage because Spike is the director that has just, I'm from Switzerland, okay? Let me just tell everyone that. And since I was a small boy, I had dreamed that Spike would win this. And now this has happened. And I just want to tell everyone that this is a farce, that I had all the ideas for Star Wars and everything.
Je
vous traduis vite fait, il dit que c'est un outrage, que c'est une farce, que depuis qu'il est un petit garçon, il rêvait que c'est Spike qui devait gagner et que d'ailleurs c'est lui qui a eu toutes les idées pour Star Wars. Enfin, donc c'est du grand n'importe quoi. Et ce qui est très marrant, c'est que c'est la première intrusion sur la scène des MTV Awards pour faire un scandale.
Il y en aura d'autres.
Un prix jugé mal attribué. Souvenez-vous effectivement du tollé provoqué par un certain Kanye West lorsqu'il a fait pareil en 2009 avec Taylor Swift.
Rigolait pas pareil, hein, Taylor
non,
Swift.
Non, rigolait pas pareil. Et là, alors, Adam des Beastie Boys, il était déguisé en Nathaniel Hornblower, un personnage de réalisateur suisse qu'il avait déjà endossé dans le passé. La private joke ne pouvant être comprise que par les fans du groupe, le scandale, en fait, il est passé crème. Les gens se sont juste dit, bah ouais, c'est les Beasties, c'est des comiques, donc c'est pas bien méchant.
Putain, ils sont forts les mecs. Hein.
Trop forts. Fort.
Moi, ça me rappelle aussi ce que tu avais raconté dans l'épisode sur Fat Boy Slim, parce que Spike Jonze, qui avait réalisé le clip de Praise You, en fait, il est allé récupérer le MTV Award. Il était déguisé en mode chorégraphe de flash mob, ouais, comme dans le clip. Et d'ailleurs, ils se sont bien trouvés, hein, les gars. Hein. Ce sont tous des zinzins, quoi.
Bah, carrément. Ils sont... C'est la fine équipe.
Alors c'est le moment maintenant de faire le bilan de Hill Communication. Alors je vais vous demander votre avis. Alors c'était comment de réécouter cet album? On va commencer par toi, Olivia.
Bah écoute, c'était super, moi j'ai adoré. Je trouve que ben, ça te fout une énergie, tu retrouves les soirées de tes 15 ans à, comme je le disais tout à l'heure, de déliner de la tête violemment. Enfin, moi j'ai trouvé ça génial. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai regardé le docu qui a été fait par Spike Jonze il y a 2 ans.
Beastie Boys Story.
Absolument. Qui en fait, c'est les 2 derniers Beastie Boys qui restent sur scène, qui racontent un petit peu leur épopée.
Et, oui, ben, qui restent parce que Adam Yao, qui est malheureusement décédé d'un cancer en 2012.
Absolument, exactement. Ils expliquent aussi que c'est pour ça qu'ils reviendront jamais, puisqu'il manque le troisième et qu'un potentiel retour est impossible.
Sachant que c'était lui l'âme du groupe. Hein. C'est un peu la conclusion de ce truc.
Absolument. Et donc, me replonger dans leur histoire et découvrir que c'était quand même des vrais chiens fous, complètement tarés, qui ont fait toutes les pires conneries et pourtant des vrais musiciens par ailleurs. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ouais, ça m'a vraiment plu.
D'accord. Et l'album, tu vas le réécouter un petit peu ou pas?
Je pense, tout à fait.
Ok, c'est bien. Fanny, du coup, alors toi qui as découvert les Beastie?
Bah, moi, je dois te dire un grand merci, Manu, parce que je pense que c'est la meilleure découverte que j'ai faite de tout Radio Cassette.
De toute ma vie entière.
Quoi? Ace of Base.
Non, mais dans les choses que je ne connaissais pas du tout. Et donc, jusqu'à présent, j'allais dire que c'était les Rage, mais là, ça, pour moi, ça surpasse les Rage, quoi. C'est un niveau d'excellence rarement atteint, et surtout parce que ça condense plein de choses que aujourd'hui en tant qu'adulte j'adore. Donc on revient effectivement dans du hip-hop, il y a le hardcore, il y a le jazz, mais à un moment, donc quand je lance le disque, ça commence sur Sure Shot et déjà je me dis ouh, ça va être très très bien ce truc là et plus l'album avance et puis après on arrive sur Sabrosa et là les références jazz, enfin j'étais en orbite, quoi.
Ouais.
Et surtout qu'à partir de ce moment-là de l'album, il y a une sorte de déroulé génialissime avec un enchaînement de titres, Sabrosa, The Update, je les ai notés, Fetterman's Rule, Eugene's Lament, mais kiff, mais énorme. On est
kiff
à 3000. 10 sur 10 ouais. Sur l'échelle de kiff. Donc, excellentissime album, mais excellentissime découverte. Et effectivement, je me suis plongée avec très, très grand plaisir dans leur histoire. J'ai regardé comme toi, Olivia, le documentaire de Spike Jonze. J'en ai regardé d'autres. J'ai écouté un podcast où il discutait avec Rick Rubin de toutes ces années-là. Et bon, évidemment, désolée, je vais radoter parce que je reparle de Hip Hop Evolution, cette série sur l'histoire du hip-hop que j'avais regardée et dans laquelle il y avait Russell Simmons et Rick Rubin qui parlaient de la fondation du label Def Jam. Donc, j'avais eu un tout petit aperçu de la carrière des Beasties, mais là, franchement, enfin, énorme. Okay.
Donc clairement, tu vas mettre le poster des Beastie Boys dans ta chambre, quoi.
Non, mais par contre, j'ai mis un gros paquet de morceaux dans mes playlists actuelles, ouais.
Ah cool.
Et leur côté misogyne, ça te dérange pas?
J'ai pas creusé ce côté-là.
Misogyne,
mais en même temps, ils font un gros mea culpa. Alors c'est vrai qu'ils étaient des ados complètement cons, comme on peut l'être quand on est ado, à dire de la merde et à chercher cette figure de tata claque. Hein.
Complètement, ils racontent n'importe quoi, même en interview.
Oui.
Voilà, faut pas trop prendre au sérieux ni leur musique, ni ce qu'ils racontent.
Bien sûr, voilà. Sauf qu'entre-temps, quand même, Ad Rock s'est marié avec Kathleen Anna, qui est la leaduse de Bikini Kill, une des, une des figures de Riot Girl.
Ah oui, donc, tu nous en avais parlé, oui.
Donc
oui.
J'imagine que, bon, à mon avis, avec Kathleen Anna à la maison, le mec...
C'est un peu calmé, le coco.
Voilà, le mec, il doit y aller mollo sur les trucs misogynes. Donc justement, c'est peut-être grâce à elle qu'il a fait le mea culpa et qui s'est racheté auprès de Kate, la batteuse, qu'ils ont viré comme une merde. Ouais.
Je précise, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Bikini Kill, c'est un des groupes de punk féministe, un peu figure de proue du girl power. On en avait parlé dans notre épisode sur les Spice Girls.
Girls,
voilà, c'est un groupe qui est assez culte. Voilà, fin de la parenthèse.
Ouais.
Grégoire, toi, du coup, t'en as pensé quoi de cet album ?
Bah, moi, j'adore le côté second degré, troisième degré, millième degré des ouais. Beastie Boys. C'est un peu méta, tu vois, comme hip-hop. Donc, c'est très rigolo, c'est très iconoclaste. Moi, je suis fan de l'album, comme je disais, je l'ai en vinyle. Donc, voilà, c'est un album que j'écoute régulièrement, en fait, depuis plusieurs années. Donc, voilà, après, pour moi, c'est leur grand album, quoi. J'ai écouté les autres disques des Beastie Boys, je suis pas aussi fan. Je trouve que là vraiment ils arrivent à un niveau voilà, ils ont pour, selon moi c'est leur meilleur album en tout cas
c'est l'album
sur la durée.
De la maturité quoi.
Ouais, on peut dire ça en quelque sorte, même s'il y a eu d'autres tubes après sur d'autres disques des Beastie Boys. Je trouve que sur la longueur c'est un disque hyper généreux, alors un peu difficile à appréhender dans les premières écoutes parce qu'on se dit mais c'est quoi ce truc,
pourquoi
c'est
il crie
déjà, pourquoi il crie, pourquoi je passe d'un morceau hip hop à un morceau punk, enfin c'est un peu déstabilisant les premières écoutes, on comprend pas trop ce qui nous arrive. Mais voilà, une fois qu'on a appréhendé ça, qu'on est conscient de ce côté un peu chien fou, effectivement, des Beastie Boys, de ce côté bordélique, voilà, on prend beaucoup de plaisir à partir dans tous les sens avec eux. Et voilà, moi, c'est un album que j'aime beaucoup.
C'est assez fort ce qu'ils ont fait quand même, parce que dans les années 80, c'était vraiment des petits cons un peu tête à claque qui faisaient des canulars téléphoniques, etc. Et là, on arrive sur des grosses références de jazz. Enfin, il y a un truc assez fou quand même.
Ah bah ouais, ils ont évolué quand même, les petits gars.
Ouais, non, mais...
Non, mais puis ils ont évolué assez vite, en fait. Il s'est passé
exactement.
Quoi 10 ans entre Cookie
Puce
et celui-là. Ouais. Après, ils ont vécu pas mal de trucs, les gars, quand même.
C'est sûr.
Ouais, moi c'est un disque que j'ai découvert, franchement je connaissais quelques titres vite fait, Sabotage évidemment. Effectivement il est ultra généreux et parfois je trouve qu'en fait c'est un peu trop, c'est-à-dire qu'il y en a, il y a 20 titres sur l'album, je pense aux japonais qui en ont 24, comme, parfois c'est un peu indigeste. J'adore hein, les morceaux pris indépendamment, mais je trouve que c'est un peu fatigant, c'est le côté genre on va chercher un son crade, t'en parlais très bien Grégoire tout à l'heure, voilà, il y a ce côté punk en fait dans l'esthétique des Beastie Boys que j'adore par ailleurs, mais qui peut être fatigant en fait sur la longue et sur un disque généreux comme ça qui fait 60 minutes où t'as pas une seconde de répit, temps en temps ça fait un peu beaucoup quoi.
Vachement moins fatigant que d'autres trucs qu'on a couvert jusqu'à présent, enfin que les Red Hot avec sur Blood Sugar ou même Rage, au bout d'un moment c'est ça casse plus la tête que ça, parce que ça justement tu alternes tellement de styles que en fait c'est comme si t'as des moments de repos et tout d'un coup t'as un instrumental jazz avec un côté soul de ouf funk.
Ouais, je pense que c'est là où ils sont malins, c'est qu'effectivement ils arrivent à faire redescendre la pression, à faire redescendre l'intensité et à repartir après. Donc je vois ce que tu veux dire, Manu, mais effectivement je trouve que ça se ressent plus sur les Rage Against the Machine par exemple, ce côté un peu pénible au bout d'un moment, cette surénergie. Au bout d'un moment, pour l'auditeur, ça peut être chiant de s'investir dans ce son qui est tout le temps à 200%. Quoi.
Ouais, après, je dis ça, c'est pour faire un peu chier. Hein,
parce que,
globalement, l'album, on est d'accord, c'est quand même un gros album de hip-hop. D'un point de vue créatif, il est quand même assez ouf. Et puis, effectivement, quand tu connais un petit peu l'histoire des Beastie Boys, en fait, c'est génial de voir... on parle de cet album et comment ils ont fait d'autres albums avant et après qui évoluent constamment. C'est assez fou.
C'est
vraiment un groupe qu'il faut suivre dans sa carrière en entier hein, et pas seulement s'arrêter à Ill Communication. Voilà. On a fait un peu le tour de cet album. Je voulais retrouver ma conclusion. Voilà, alors voilà, on a fait le tour de cet album Ill Communication, c'est tout pour aujourd'hui. On avait envie de partager avec vous notre avis sur cet album avec le Radio Cassette Crew, avec Fanny, Grégoire et Olivia. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, partagez cet épisode sur Twitter, Instagram et Facebook si ça vous a plu. Vous pouvez aussi carrément nous laisser un message sur notre répondeur téléphonique qui cassette pour donner votre avis sur l'épisode ou nous raconter une blague.
Ou nous faire un canular téléphonique.
Absolument. Le numéro est dans la description. Ne zappez pas, on va écouter vos derniers messages dans quelques instants. Allez, on se quitte maintenant avec Sure Shot, les petits chats. Gros bisous et cœur avec les doigts.
Bye bye,
bye, bye.
À bientôt.
Ciao. Ciao. Well, it's a take it off.
Oh, yes, indeed, it's fun time, fun time.
Because you can't, you won't, and you don't stop. Because you can't, you won't, and you don't stop. Oh, when you can't, you won't, and you don't stop.
If you ain't coming back, the show is shining.
Salut les Radio Cassettes et merci pour votre épisode sur R, mon groupe préféré. Et effectivement, R, c'est l'élégance à la française. C'est vraiment des albums que j'ai écoutés et réécoutés. C'était super d'écouter ça, de réentendre des chansons, puis d'entendre des petites anecdotes sur la fabrication. Et alors, par contre, je suis pas du tout d'accord avec Emmanuel, parce que Tokiwoki, c'est comme un putain d'album. Et ça fonctionne très 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 bien. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et bravo encore pour l'émission. On apprend plein de trucs, c'est super. Il y a de la bonne humeur. Allez, on vous embrasse. Et à la prochaine. Ciao.